C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 16 que nous allons entendre le début de ce récit qui évoque la manne. Je vous lirai le texte dans la traduction de Louis II et puis, prédication faisante, nous reviendrons sur quelques mots qu'il convient de retraduire. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. C'était le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu votre murmure contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit : L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron : Dis à toute la communauté des Israélites : Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit : J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes : Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, les cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné : Recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, 1 homère par tête selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit : Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Puis il nous est dit que ceux qui ont voulu garder de la nourriture jusqu'au lendemain voient que la nourriture pourrit. Et au verset 31, voici ce que nous apprenons. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières. Et le cantique 308 sera l'occasion pour nous de pouvoir méditer avant d'entreprendre la traversée de ce texte biblique. Cantique 308, les strophes 1, 3 et 4. Éternel, notre Dieu, dans l'agitation de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et dirige nos pensées vers toi. Car c'est toi qui es source de toute bénédiction. Par ton esprit, dispose notre cœur à recevoir maintenant ta parole. Chers frères et sœurs, l'homme ne vivra pas seulement d'eau fraîche et d'amour. Ce texte nous l'apprend, il faut aussi de la manne, de la manne. Il faut de la manne pour atteindre la terre promise, cette terre qui représente ce moment de la vie où notre humanité est pleinement épanouie. Lorsque les textes bibliques disent que la terre promise, c'est ce lieu où nous pouvons louer Dieu, c'est une manière de suggérer que la terre promise, c'est ce moment de la vie où nous sommes en harmonie avec notre vocation, ce moment où peut-être nous découvrons l'âme sœur, ce moment où ce que nous vivons est en écho avec ce que nous pressentons devoir être vécu. C'est ce moment où nous prenons pied dans une existence véritablement humaine. Nous nous révélons à nous-mêmes tel que jusque-là, nous ne l'avions jamais éprouvé. Le peuple hébreu vient d'être libéré du pays où il était devenu esclave. Mais il doit encore cheminer pour atteindre la terre promise, pour devenir vraiment libre, libre d'être soi. Fini ce fil à la pète, fini ce sentiment de nostalgie de l'époque où les marmites d'Égypte étaient pleines, et tant pis si nous subissions l'esclavage, au moins le ventre était repu, mais nous n'étions pas libres. Ici, il s'agit non seulement d'être libéré, mais de pouvoir aussi atteindre la terre promise, ce lieu où nous pouvons être nous-mêmes. Et c'est là que la manne intervient. La manne est ici une métaphore. C'est une nourriture pédagogique, en quelque sorte, destinée à nous enseigner comment cheminer vers la terre promise. Alors, si vous avez le sentiment de n'être pas encore tout à fait citoyen de la terre promise, si vous considérez que le royaume des cieux n'est pas encore pleinement accompli, bien peut-être que ce texte peut vous aider à découvrir quel est le cheminement nécessaire jusqu'à cet horizon heureux. Pour reprendre l'expression du texte biblique, la manne, qui est cette nourriture offerte par l'Éternel, permet d'éprouver l'homme. Le texte traduit par Louis II dit « Je vais les mettre à l'épreuve ». Il faut juste se souvenir que dans le texte hébreu, c'est le verbe « nasa » qui est employé. « Nasa », ça signifie « élever ». Et donc, c'est l'épreuve au sens d'élévation. C'est une épreuve pour élever et non pas une épreuve pour accabler, pour humilier, pour montrer la faute d'une personne. Élever le peuple hébreu, lui permettre d'atteindre un nouveau niveau d'existence. Voilà l'enjeu de cette nourriture en chemin, de cette pédagogie divine dont ce chapitre est la mise en récit. Mieux que cela, le dernier verset que je vous ai lu, le verset 31, nous apprend que la manne est comme une graine de coriandre. C'est ce que disent nos traductions. C'est une traduction un peu curieuse qui vient en fait de la Septante, traduite ensuite par la Vulgate, où le mot coriandre est venu remplacer le mot hébreu gad. Gad, dont nous avons une trace dans notre mémoire, parce que Gad, c'est l'un des fils de Jacob. Et au moment où Gad vient au monde, il y a une expression, c'est « quelle chance, quelle bonne fortune ». Et en fait, Gad, cela veut dire la chance, la bonne fortune. La manne a donc été comprise originellement, dans sa rédaction hébraïque, comme semence de bonheur. Ce que l'Éternel injecte dans notre histoire pour qu'elle prenne des nuances heureuses. Et à la manière du psaume 45 au verset 16 qui déclare au sujet de l'Éternel « Tu ouvres les mains et tu rassasies les vivants de toute volonté et non pas de nourriture », eh bien, ici, nous comprenons que la manne et ce que l'Éternel nous offre pour susciter de la volonté, pour ressusciter du désir. L'Éternel comme source du désir pour un peuple qui est peut-être encore trop lié à la période de servitude. Alors je vous propose de découvrir la manne à travers les trois caractéristiques que nous offre ce texte. La première caractéristique que je relève de la manne, c'est qu'elle est une parole quotidienne. Pour être au plus près du texte hébreu, au verset 4, ce que l'Éternel annonce à Moïse, c'est littéralement une parole du jour dans son jour. De bar yom, be yomo. Une parole du jour dans son jour. Chacun va avoir droit à une parole quotidienne. Une parole quotidienne pour le jour présent. Il n'est pas question d'une parole pour le futur. Au mieux, il y aura une parole qui tiendra deux jours pour respecter le Shabbat. Mais cette manne est une nourriture quotidienne qui nous ramène dans le temps présent lorsque nous sommes peut-être un peu trop encore liés à une nostalgie d'un âge d'or ou d'un passé que l'on voudrait encore actuel. Cette manne est une nourriture quotidienne qui nous ramène au temps présent, lorsque peut-être nous avons envie de nous enfuir dans le futur, dans des projets qui nous permettraient d'échapper aux réalités présentes. Cette manne est une nourriture pour nous ramener là où nous sommes. C'est une parole qui nous redit que c'est aujourd'hui que les choses se passent. C'est aujourd'hui que nous devons nous investir. Il y a même peut-être une sorte d'urgence à vivre, exprimé dans ce texte, qui dit que cette parole quotidienne, demain, elle aura pourri. Et c'est la raison pour laquelle un mariage est un événement qui se vit dans le présent et qui redit l'urgence qu'il y a à vivre dans le présent et non pas à reporter toujours au lendemain ce qui d'ores et déjà peut être éprouvé. Cette manne inscrit la parole dans le jour présent. Elle ne dit pas que tu as à attendre des jours meilleurs. Cette manne dit que c'est maintenant que cela se joue pour toi, que c'est aujourd'hui que tu peux être entièrement rassasié de vie. Et c'est chaque jour que chacun est en droit de bénéficier de son pain quotidien. C'est chaque jour qu'il faudra redire oui, chaque jour qu'il faudra redire je m'engage avec toi sur ce chemin. Chaque jour, la parole fait poindre cette aurore où nous sommes appelés à la vie. À chaque jour, sa parole, c'est la volonté divine et c'est notre droit. Nous avons droit à une parole quotidienne. Nous avons droit à ce qui a le goût du miel et qui ressuscite notre désir, qui ressuscite notre volonté. C'est un droit inaliénable. Chaque jour, nous avons droit à cela. Nul ne devrait être privé d'une parole qui le tire de la nuit de la consommation pour le faire entrer dans l'aurore de l'être, être soi. Cette manne, cette parole, certains en recueillaient plus, d'autres moins, mais chacun recueillait ce qu'il lui fallait. Tout excès, tout surplus venait à pourrir, dit le texte. Voyez comme la manne est pédagogique. Elle nous enseigne la juste quantité. Elle montre qu'une société décente est soucieuse de la juste quantité et qu'elle veille à ne pas gâcher. Ici, il n'est pas question d'un égalitarisme où tout le monde devrait être logé à la même enseigne. Certains ont plus de besoins, ils reçoivent plus. Certains ont besoin d'être plus aidés que d'autres, ils reçoivent plus. La juste quantité s'élabore en fonction des besoins et non en fonction des envies. C'est l'apprentissage du discernement. Apprendre ce qui nous est nécessaire pour ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin. Il y a là une économie responsable si nous y prenons garde. Une économie responsable qui ne voit pas dans la consommation excessive une manière d'exister. Mais dans une certaine mesure, ce texte pourrait même fonder l'idée d'une sobriété heureuse, la juste quantité. C'est quasiment l'éthique protestante qui nous dit qu'il faut finir son assiette et que nous n'avons pas besoin de nous encombrer de ce qui ne nous aide qu'à être un peu dans le registre du m'as-tu vu. La simplicité, la sobriété heureuse. Le deuxième aspect que je relève est la solidarité qui se tisse par l'intermédiaire de la manne. La manne provoque de la solidarité. Il n'est pas question de se servir égoïstement, en oubliant les autres. Les absents sont bel et bien présents dans le recueil de la manne. Une véritable solidarité s'instaure entre ceux qui peuvent recueillir la manne et ceux qui sont dans l'attente, dit le texte. Autrement dit, ceux qui sont empêchés, sans que l'on sache ce qui les retient. Peut-être ont-ils de bonnes raisons, peut-être ont-ils de mauvaises raisons, peu importe. Ceux qui ne sont pas là, physiquement présents, auront droit aussi à leur parole quotidienne. Là où il serait possible pour certains de voir de l'assistanat, le texte biblique voit une solidarité nécessaire. Ce que nous recevons de Dieu n'est pas à garder jalousement pour nous. Pour reprendre les termes du pape François, il s'agit de sortir de nos enceintes pour pouvoir porter la miséricorde et la tendresse de Dieu. De même que la vie de couple ne consiste pas à cultiver l'entre-soi, autrement, non seulement la cérémonie serait ultra privée, mais ensuite il y aurait une sorte d'engagement à ne pas avoir de vie sociale. Eh bien, de même que la vie de couple est un engagement à faire rayonner autour de soi l'amour qui unit, la vie croyante, c'est l'art de propager alentour ce qui rend la vie bonne, heureuse et harmonieuse. Il y a dans ce passage, et dans d'autres textes bibliques d'ailleurs, cette conscience que ce que nous avons de plus essentiel, ce qui compte le plus pour nous, ce qui a valeur d'absolu, nous l'avons reçu. En revanche, ce que nous avons construit, ce que nous avons acquis, n'est que secondaire par rapport à ce qui est ultime. D'ailleurs, le fait que la manne ne soit pas dans le camp, contrairement aux cailles dont Flavius Josèphe, dans les Antiquités bibliques, disent qu'elles étaient en transhumance et puis fatiguées, elles se sont posées généreusement dans le camp, ignorant quel est le sort qui allait leur être réservé. Eh bien, la manne est autour du camp. La manne nous oblige à sortir de notre entre-soi. La manne est en quelque sorte l'indication qu'il faut aller jusqu'aux frontières de notre existence, nous tenir sur le seuil et ne pas rester dans le cœur protégé d'une existence coucounée. Ce passage biblique devient un impératif à sortir de notre état. Et cela va être particulièrement sensible avec la troisième caractéristique de la manne. Le troisième aspect de la manne, et le plus important certainement, tient au nom même que la mémoire collective lui a attribué, et dont l'explication est donnée en cours de route, au verset 15. Lorsque les Hébreux virent la manne pour la première fois, ils s'interrogèrent et se demandèrent ce que c'était. Le texte hébreu précise qu'ils dirent « manne ou ». Quoi ça ? Quoi ça ? C'est la question de l'enfant. Moi, en tous les cas, nos enfants disaient « quoi ça ?» dès qu'ils étaient face à une situation qu'ils n'avaient encore jamais connue jusque-là. C'est la question de l'enfant qui découvre une chose, une situation, et qui se demande ce que cela peut bien être. Quoi ça ? Manne ou ? La manne est un inattendu. Elle suscite le questionnement et va justement prendre le nom du questionnement. La manne, c'est du « quoi ça ?». Pour accéder à la terre promise, les Hébreux se nourriront donc du questionnement. Et c'est bien par cet esprit d'enfance qui questionne, qui interroge, que les Hébreux pourront entrer en terre promise. Jésus, pour sa part, ne dira pas autre chose au sujet du royaume des cieux, qui est pour ceux qui leur sont semblables, une métaphore chassant l'autre. Si nous nous souvenons que nous sommes ce que nous mangeons, cet épisode de la manne indique que les Hébreux, en se nourrissant du quoi ça, deviennent eux-mêmes quoi ça. et ce n'est pas une invention personnelle. Le texte hébreu le porte lui-même. Par deux fois, au verset 7 et au verset 8, Moïse le dira explicitement. Wenar nous ma, et nous quoi ? Nous sommes quoi ? Nous sommes du quoi ? Nous sommes du questionnement, nous sommes de l'interrogation. Notre essence, c'est le questionnement. Peut-être est-ce pour cela que souvent, lorsqu'on interroge un pasteur, il répond par une autre question. C'est parce que c'est l'être même du croyant que le questionnement. Comme le disait Maurice Blanchot, le malheur de la question, c'est la réponse. L'être croyant, c'est le questionnement. Et le croyant ne laisse pas son entourage indifférent. Il devient lui-même une question. Il met en question. Il met en question ce qui semble acquis, il met en question ce qui semble défini, définitif. Le questionnement vient réveiller. Il vient réveiller le quiétisme. Il interroge l'ordre établi. Il interroge les situations de connivence, ce qui semble éternel. Le questionnement récuse. Il récuse les évidences communément admises. Il relativise les savoirs, surtout lorsqu'ils se prétendent absolus. Mieux que cela, le questionnement traduit un étonnement. Quoi ça ? Un émerveillement. Quoi ça ? Qui est à l'origine de la démarche philosophique, qui engage l'homme dans la pensée et dans le mouvement. Le questionnement nous ouvre sur plus grand que nous-mêmes, sur ce qui est là et dont nous ne sommes pas la cause. Une personne est là devant nous, elle fait figure d'altérité, elle devient figure de la transcendance. Il y a quelque chose de plus grand que nous, dont nous ne sommes pas la cause. Le questionnement nous ouvre sur la transcendance, il nous ouvre sur l'infini. Une manne est une chose limitée par la quantité, est une chose illimitée par la qualité. C'est le questionnement infini. Pensons à Jésus et à Marie. Lorsqu'ils sont à un mariage, eux aussi, c'est à Cana, dans l'Évangile selon Jean. Marie dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus lui répond, « Femme, quoi entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Quoi entre toi et moi ?» Littéralement. « Femme », ce n'est pas désobligeant. « Guné », c'est au vocatif, c'est au contraire très déférent. C'est une marque de délicatesse. « Femme, quoi entre toi et moi ?» Oui, souvent, on a pris ça comme un propos désobligeant. Jésus qui voudrait rabaisser sa mère, en ajoutant en plus, « Mon heure n'est pas encore venue, je sais quand même mieux que toi ce que je dois faire. » Et si nous l'entendions autrement, grâce au récit de la manne ? Peut-être est-ce le fils qui est surpris par la parole de la mère ? Ma, quoi ? Quoi ça ? Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que ta parole trouve un tel écho en moi ? Comment se fait-il que je sois soudainement bouleversé par ce que tu me dis, moi qui pensais que mon heure n'était pas encore venue, alors que c'est une parole pour mon quotidien, pour mon présent, d'ores et déjà. Et c'est effectivement sur le champ que Jésus indiquera aux serviteurs ce qu'il faut faire. Car c'est aujourd'hui qu'est la noce. C'est aujourd'hui que nous célébrons la vie. C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous réjouir et vivre de toute notre âme. Voilà ce que nous enseigne la manne. Amen. à la métaphore de la sortie